Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette. C'est le moment de se faire un 90 minutes d'accès libre. Aujourd'hui, on vous pose la question, pense-t-on assez à l'accessibilité universelle dans les communications? Ce qui veut dire, quels sont les obstacles que vous vous rencontrez dans les médias ou sur Internet, peu importe vos limitations d'activité ou votre difficulté à lire? Répondez à la question directement sur la page de l'émission d'Accès libre en tapant canalm.vusezvoix.com ou en nous repérant sur les réseaux sociaux Canalm, la radio de Vusezvoix. En discussion sur la question aujourd'hui, Antoine Perrault, coordonnateur du regroupement des aveugles et anglais, et aussi Vincent François, consultant en accessibilité web. D'autres questions qui vous concernent, sinon, c'est bientôt la semaine de la canne blanche, vous le savez, du 5 au 11 février prochain. On en apprend davantage aussi sur les prochaines Paralympiques avec de sport comme Émilie Bouchard-Labonté. Et aux organismes, on discute de comment mobiliser avec le formateur d'expérience du CFP, Pierre Valois. Dans un instant, le département des sciences biologiques de l'UQAM a fait une découverte majeure dans le dépistage de maladies rares et on reçoit le chercheur Nicolas Pilon. Voilà, c'est parce qu'il est à côté de moi, c'est toujours comme ça, sur Canal M, la radio de Vusezvoix. En janvier dernier, nous apprenions qu'une équipe du département des sciences biologiques de l'UQAM faisait une découverte majeure concernant le syndrome CHARGE ou CHARGE. Enfin, on décidera plus tard dans l'émission quel sera l'emploi. Mais pour célébrer et mieux comprendre l'impact de cette bonne nouvelle, Nicolas Pilon, professeur au département et titulaire de la chaire de recherche UQAM sur les maladies génétiques rares. Je vais y arriver. Heureusement qu'on parle pas trop de science à l'émission d'habitude. Bonjour, Nicolas.
Bonjour, bonjour.
Merci d'être là et d'accepter que votre nom soit un peu torturé.
Ça va.
C'est gentil. D'abord, félicitations même.
Merci.
C'est une nouvelle incroyable. Comment on sent après avoir une récolte comme ça, ouais. Sûrement, après des années de travail?
Mais c'est un peu bizarre parce que justement, ça fait tellement longtemps qu'on travaille là-dessus que vient un temps où on oublie presque.
Ah oui.
Et c'est un long processus, publier la recherche aussi.
Ben c'est vrai, le travail ensuite de rédaction, j'oserais dire, puis de publication.
Oui, de se promener d'un journal à l'autre. Ouais. Chaque journal a ses lignes éditoriales.
Vous parlez des revues spécialisées.
Oui, les revues spécialisées, ouais. En sciences. Et clairement, avec cette étude-là, c'est une étude de grande ampleur. Donc, dans le domaine, on vise toujours les meilleurs journaux pour avoir le meilleur impact,
ouais.
Parce que ça aide aussi à nos prochaines recherches pour aller chercher des nouvelles subventions. C'est un système bien compliqué, c'est un grand jeu.
Mais vous venez de nous montrer que derrière cette bonne nouvelle qui sonne à nos oreilles comme un miracle potentiel, ouais. Il y a tout un monde avec les règles de l'institution. Donc, il faut publier pour avoir sa notoriété, puis éventuellement continuer d'avoir encore de l'argent pour faire de la recherche.
Exactement.
Bon, OK, ça c'est réglé.
Voilà.
vous ne faites pas quand même les choses comme tout le monde. Si je peux me permettre, j'ai beaucoup apprécié qu'en annonçant la nouvelle, vous avez aussi félicité des gens de votre équipe. En fait, le service des coms l'a fait. Je suis sûr que vous êtes d'accord avec ça. Mm-hmm. Entre autres, vous vouliez féliciter la doctorante en biochimie Catherine Bélanger et le postdoctorant Félix-Antoine Bérubé-Simard. C'est pas commun, ça.
Ben, je l'apprends. Je sais pas.
Oui, vous trouvez pas?
Je sais pas.
Parce que souvent, les chercheurs, c'est eux dont on parle, c'est la grande figure, on n'ose pas parler des subtilités dans l'équipe.
Oui, mais pour moi, c'est important, en fait, de redonner crédit aux gens qui font la recherche dans le laboratoire.
Ouais.
Donc, moi, ma job, justement, c'est de chercher des subventions. C'est moi qui tire les ficelles, qui a les grandes idées, mais ouais. Derrière tout ça aussi, on a un rôle de formation, donc on a encore des étudiants, des post-doctorants dans ce cas-ci aussi. Et donc, pour moi, ça fait partie de la job, je pense, de reconnaître leur bon travail, en fait. Puis c'est un travail tellement d'équipe,
ouais.
Et c'est important, on n'a pas beaucoup de tape dans le dos. Je me souviens quand j'étais à ce niveau-là aussi, même à mon niveau maintenant, les tapes dans le dos ne viennent pas souvent. Donc, quand on peut en donner, on en profite.
Donc, Nicolas Pilon, un professeur, un chercheur qui sait reconnaître le travail de son équipe. On pourrait peut-être arrêter de faire le tour de la nouvelle puis en parler. donc, qu'est-ce que c'est le syndrome Charge ou Charge, pour lequel vous avez fait des découvertes importantes.
Oui, donc Charge, c'est un acronyme...
Allez-y, dites-le.
Charge?
Oui.
Mais c'est tellement compliqué, en fait, que j'arrive jamais à m'en souvenir sans le lire moi-même.
Donc, charge tout bonnet.
Je peux dire, par contre, auxquelles structures ça se rattache. Là.
Oui.
Donc, on parle de problèmes aux yeux, de problèmes aux oreilles, de problèmes au cœur, de problèmes aux organes génitaux et de problèmes d'un retard de croissance et déficience intellectuelle.
Ah oui.
Et ça, c'est ce qui fait l'acronyme charge.
Mm-hmm.
Mais en plus de tout ça, il y a une panoplie, une liste super longue d'autres anomalies qui sont plus ou moins fréquentes et qui font partie quand même de la maladie et du diagnostic.
Et donc ça, c'est une maladie rare là, qui pourrait toucher un nouveau-né sur 10 000 environ, ce qui est quand même important pour une maladie rare.
Oui. Puis on dit environ justement parce que le problème dans cette maladie-là, c'est le diagnostic qui est difficile à établir.
Ah ouais.
Vu la grande diversité des anomalies qu'on retrouve.
Mm.
Et c'est pas tous les patients qui vont avoir la même... les mêmes anomalies en même temps.
Okay.
On a même des cas familiaux où la mère, disons, va avoir une malformation aux yeux et l'enfant, la fille, va avoir d'autres malformations en plus.
Mm.
Il y a des parents même asymptomatiques. En tout cas, c'est très compliqué.
Donc, il y a vraiment une grande complexité, une grande diversité, puis c'est difficile de dépister. D'ailleurs, c'est ça votre découverte. Vous avez trouvé un moyen de mieux débusquer cette maladie.
Voilà, c'est ça. La difficulté, en fait, c'est de... Parce que le diagnostic, c'est seulement sur des symptômes cliniques.
Mm-hmm.
Et au niveau génétique, quand on a un test génétique qu'on peut faire, ça accélère beaucoup le diagnostic.
OK.
Et c'est parce que...
Ça évite la progression aussi,
exactement.
J'imagine.
Bien, la progression, en fait, dans ce syndrome-là, où on a plusieurs anomalies, le plus vite on a le diagnostic, mieux on peut intervenir aussi, parce qu'il y a des anomalies qu'on des fois, on ne peut pas suspecter. Parce qu'elles ne sont pas visibles, elles sont à l'intérieur du corps.
Mm.
Donc, sachant qu'on a le syndrome Charge, à ce moment-là, là, on peut tout de suite aller voir, ah oui, normalement, c'est associé à tel autre organe, on va aller voir s'il y a des malformations là. Et c'est important, à ce moment-là, de faire les opérations le plus tôt possible.
Mm-hmm. Donc, on comprend bien. Puis, comme vous l'avez dit précédemment, il y a des différences là, dans la gravité puis dans la présence de plusieurs symptômes ou anomalies.
Oui.
Il y a une grande communauté d'enfants ou d'adultes aux prises avec ce syndrome?
Une grande communauté, il y a...
À Montréal ou au Québec ou au Canada?
Bien, au Canada, c'est plus ou moins bien répertorié.
Mm-hmm.
Aux États-Unis, il y a une fondation sur le syndrome Charge de laquelle on a reçu des fonds justement pour financer en partie cette recherche-là. Et sont beaucoup mieux organisés là-bas, en fait, qu'ici. Là.
Ben évidemment, il y a une masse critique dix fois plus grande.
C'est exactement ça.
C'est déjà un début pour avoir une masse critique que d'être 10 fois plus dans la population normale, ou dite normale. En tout cas, je sais qu'il y a d'autres retombées aussi. Les maladies rares, on en parle souvent ici à l'émission parce que c'est inquiétant. Les gens qui ne savent pas sont souvent en face de médecins qui ne pensent pas en premier lieu aux maladies rares, etc. Votre découverte va-t-elle aider ces autres maladies rares là?
Bien, ce que je peux dire... Bon, déjà, mon laboratoire, on ne s'intéresse pas seulement à cette maladie-là, le syndrome de Charge. On s'intéresse à un ensemble de maladies rares qui ont un point commun.
Mm-hmm.
Et ce point commun-là, bon, je vais entrer dans des termes un peu scientifiques.
Allez-y.
C'est,
en une minute.
C'est un problème avec une population de cellules souches donc qui existe pendant le développement embryonnaire.
Ouais.
Et donc, c'est ça. Donc, souvent, il y a beaucoup de recoupement entre les diverses maladies à cause de ce point commun-là.
Mm.
Et donc, les choses qui se passent dans le syndrome Charge, on peut les retrouver dans d'autres maladies rares aussi.
OK.
Donc, il y a des recoupements comme ça qu'on peut faire entre...
Répercuter ce que vous apprenez
voilà.
Dans d'autres situations, dans le cas d'autres maladies rares.
C'est ça.
Écoutez, en terminant, on vous suit. Hein? Vous êtes déjà en renouvellement des demandes de subventions, si je comprends bien.
C'est perpétuel.
Perpétuel. Je vous rappelle, en fait, je rappelle aux gens que Nicolas Pilon, ah ouais, j'ai réussi à le dire, est professeur au département des sciences biologiques. Et il est aussi titulaire de la charge de recherche UQAM sur les maladies génétiques rares. On continue de vous suivre. Il est possible d'accéder à de l'information via le site ucam.ca, si je comprends bien.
Oui, puis on a aussi la page web du laboratoire.
Okay. Bon, ben on ira visiter tout ça. Merci. Bravo. Merci encore.
Mais merci.
solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal.
Comment faire en sorte que les membres des organismes communautaires se mobilisent autour de la mission d'un groupe? C'est une bonne question et on aura avec nous Pierre Valois qui va en parler. En fait, il est avec nous au téléphone.
Oui, bonjour.
Bonjour Pierre. Vous sortez d'une réunion d'équipe, si je comprends bien.
Exactement.
Je suis tellement bien informé. En fait, rappelons que le Centre de formation populaire forme et accompagne les groupes depuis maintenant 45 ans, c'est ça?
À peu près, près de 45 ans ou un petit peu plus.
Bon. Et la mobilisation, j'imagine que c'est important depuis les débuts.
Ben, ça a toujours été important pour tous les organismes ou même pour le Centre de formation populaire.
Ben oui.
Si on se rappelle bien l'histoire du mouvement communautaire des groupes populaires, ben, c'est sûr que ce sont des gens qui se sont réunis au coin d'une table autour d'un problème particulier et qui ont décidé que collectivement, leur voix aurait plus de portée qu'individuellement.
Ouais.
Donc, à partir de ce moment-là, les groupes se sont constitués en corporations sans but lucratif. Et finalement, le fer de lance de la corporation, c'est bien entendu, ou dans un organisme communautaire autonome, c'est bien entendu son membership, les gens
qui adhèrent à la vie associative.
Exactement.
Bon, les gens à l'intérieur de l'organisme. Donc, comment faire pour que les membres des organismes communautaires se mobilisent autour de la mission des organismes?
Ben, souvent, il y a des organismes qui vont organiser régulièrement des journées de réflexion, des lacs à l'épaule autour de la question de la mission du groupe pour valider toujours cette mission-là. Et aussi,
parce que ça peut changer.
Ben, ça peut changer en cours de route ou au cours des années, mais c'est rare qu'on voit des modifications majeures. Et si on trouve aussi important que les nouvelles personnes qui adhèrent à un organisme soient bien au courant de la mission de du groupe lui-même. Donc, pour nous, ça fait de refaire partie d'un petit document qui pourrait être offert aux nouveaux membres de la corporation, c'est-à-dire la mission du groupe, les objets pour lesquels il a été créé et les activités sur lesquelles il se base pour réaliser sa mission. Donc, c'est un travail de mobilisation qui est constant et permanent. Et c'est un travail qui est laissé un petit peu, en tout cas, qui est laissé plus ou moins accompli actuellement. Et peut-être
oui, vous trouvez que ça fait défaut, cette espèce d'accueil des membres, puis leur rappel de la mission?
Oui, souvent, il y a une systématisation, c'est-à-dire que les gens qui participent à des activités, on leur demande s'ils veulent devenir membres. Les gens, souvent, acceptent de devenir membres, mais sans trop savoir c'est quoi exactement l'organisme auquel ils vont appartenir, sans trop se poser de questions. Et pour moi, c'est important qu'on puisse leur dire exactement qui on est, pour qu'éventuellement, ces membres-là soient plus aptes à jouer des rôles plus importants dans l'organisation. Donc, à se mobiliser autour de la mission, soit en participant à des comités de travail, qui souvent est la porte d'entrée des membres pour participer pleinement et entièrement aux différentes activités de la corporation. Et éventuellement, ils pourraient devenir membres du conseil d'administration. Donc, pour nous, c'est important que le membership ne soit pas qu'une carte qu'on offre.
Non, c'est ça. Que ce soit incarné. Incarné à partir, que ce soit lié aux valeurs là, que les groupes ont choisies, pas seulement leur activité, j'oserais dire, de surface, là.
Exactement, parce que souvent, on confond aussi, de plus en plus, les gens confondent la vie associative, la vie démocratique, à la participation à l'Assemblée générale annuelle.
Oui.
Or, nous, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres lieux qui peuvent exister, qui permettent aux membres de réaliser, finalement, leur plein en termes de vie associative, en plus de la participation à l'Assemblée générale. Donc, participation des comités, des lacs à l'épaule auxquels on est invité comme membre, des activités de réflexion qui sont adressées spécifiquement aux membres et qui sont portées par l'équipe de travail et le conseil d'administration de l'organisme, sont aussi des lieux où les gens peuvent apprivoiser l'organisme et se sentir vraiment partie prenante de ce groupe-là.
Mais c'est sûr, donc, vous nous parlez de la mobilisation à l'intérieur de l'organisme. Puis c'est très important, puis c'est communiquant aussi avec l'extérieur, puis avec la communauté, puis ça permet à un organisme d'être en santé. Mais qu'en est-il de cette mobilisation de la population? Qu'est-ce que vous auriez à dire là-dessus en quelques minutes?
On a travaillé dernièrement avec des groupes qui, dans un même arrondissement de Montréal, ils se connaissaient peu entre eux. Donc, déjà, il y avait des manques au niveau de la possibilité de référence entre les organismes. Les gens connaissent une association de locataires, un centre de femmes, mais ils ne savent pas exactement tout ce qui est possible de réaliser grâce à ces organismes-là. Donc, peut-être une meilleure connaissance mutuelle des organismes sur un même territoire, ça pourrait être un enjeu important. D'autre part, on a souvent été habitués d'attendre les participants et participantes qu'ils se déplacent vers nous, vers le lieu de vers le lieu où c'est pignon sur rue, l'organisme. Et nous, on conseille de plus en plus, on voit des nouvelles pratiques qui émergent, qui demandent aux travailleurs et travailleuses des différents groupes de changer leur façon de faire pour aller au-delà, au-devant des personnes qui seraient susceptibles de participer aux activités de l'organisation. Et les gens vont se servir d'un paquet de documents qui peuvent exister comme des cartographies. Suite au dernier recensement, on peut identifier un peu les populations, les endroits où les populations qu'on désire rejoindre sur la carte du quartier. Et peut-être, à ce moment-là, aller au-devant, cibler des quadrilatères particuliers via des installations qui peuvent être vraiment ponctuelles pour faire en sorte que les gens puissent connaître un peu les différentes activités que l'organisme propose.
Et ça, c'est important. Il faut faire ça souvent. Mieux comprendre la population qu'on doit desservir, parce que traditionnellement, on a l'habitude de travailler, puis j'aime pas le mot moi non plus, là, mais avec des clientèles spécifiques, mais est-ce qu'il faut de plus en plus regarder comment ça bouge dans nos quartiers?
Bien, je pense que c'est important de le savoir, mais c'est important aussi de se faire connaître. Il y a des foires qui s'organisent, mettons, je parle, mettons, Plateau Mont-Royal, dont on est partie prenante au CFP, on est sur le territoire. Il y a des activités de présentation des organismes membres d'une corporation de développement communautaire sur le plateau qui organise annuellement ou deux fois par année des petites campagnes près du métro Mont-Royal. Donc, pour se présenter au milieu. Parce que il n'y a pas toujours simplement les gens qui sont intéressés par nos activités, qui sont susceptibles de devenir membres, mais il y a aussi des gens intéressés par la mission du groupe.
Ouais.
Ils n'ont pas nécessairement besoin de participer aux activités, mais qui pourraient offrir éventuellement une expérience, développer des qualités, des compétences pour que l'organisme puisse s'en servir. Donc, ce serait déjà un autre lieu de recrutement d'un membre, d'un membership différent, mais qui pourrait être intéressant pour le conseil d'administration.
Bon, bien, on entend bien à la fois ce qu'il faut faire pour mobiliser à l'interne vers le conseil d'administration ou vers des activités au sein de la vie associative, mais aussi à l'extérieur. Et je rappelle aux gens qu'on est avec Pierre Valois, qui est formateur, conseil au Centre de formation populaire. D'ailleurs, on peut avoir plus d'informations sur vos excellentes formations et services au lecfp.qc.ca. C'est bien ça?
C'est exactement ça.
Merci, Pierre Valois.
C'est moi qui vous remercie.
Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser, plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Plus je t'enlace, plus j'aime t'enlacer. Le temps qui passe ne peut rien y changer. Mon cœur bat quand tu t'en vas, mais tout va bien quand tu reviens, car plus je t'embrasse, plus j'aime t'embrasser. Je ne peux m'en lasser. J'en ai tellement envie que j'oublie tout dans la vie. C'est insensé ce que j'aime t'embrasser. Plus tu m'aimes, plus je t'aime.
Question de la semaine. Pense-t-on assez à l'accessibilité universelle dans les communications? Quels obstacles rencontrez-vous dans les médias et sur Internet?
Et cette question, n'hésitez pas à y répondre sur canalm.vusezvoix.com ou encore sur les réseaux sociaux. Et ça tombe bien parce que les communications pour les personnes aveugles, c'est souvent un grand défi. C'est pour ça qu'un peu avant, à l'aune de la semaine de la Canne blanche qui se tiendra du 5 au 11 février prochain, on invite l'INCA et avec particulièrement la chef du programme Vision Amitié, Stéphanie Michaud. Bonjour Stéphanie Michaud.
Bonjour Monsieur Racette.
Très content que vous soyez avec nous.
Oui, carrément.
Donc cette semaine de la Canne blanche, elle est enfin assez connue. Elle revient cette année. Alors présentez-nous ça un peu mieux là, que je l'ai fait sûrement.
Mais la semaine de la Canne blanche, il faut savoir que ça existe depuis 1947.
Ah oui.
Et ça, donc ça fait assez longtemps que ça existe. Le but premier de la semaine de la Canne blanche, c'est vraiment de sensibiliser les personnes à ce que c'est que la Canne blanche, donc comme outil de déplacement pour les personnes malvoyantes.
Mm-hmm. C'est important parce que ça a plusieurs rôles, puis les gens se posent souvent la question, mais bon, quand vous voyez quelqu'un avec une canne blanche, qu'est-ce que ça veut dire en gros?
En gros, ce que ça veut dire, c'est que la personne qui est utilisatrice d'une canne blanche mm-hmm. a de la difficulté à voir. Donc, ça peut être, elle peut avoir de la difficulté à voir au sol. Elle peut juste comme s'identifier comme une personne ayant une basse vision. Donc, c'est plus facile souvent avoir de l'aide ou demander de l'aide.
Ouais.
Et des fois, ça peut dire aussi qu'elle est en cécité totale. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la majorité des gens qui utilisent une canne blanche ont une basse vision, donc ont encore un petit peu de vision.
Ah, bien. Parce que sinon, ça se distingue d'une personne qui serait complètement aveugle.
Oui.
Okay.
Ben, en fait, c'est la même canne blanche, mm-hmm. mais il faut savoir qu'il y a très peu de gens qui vivent vraiment dans le noir.
Ouais.
Donc, contrairement à ce qu'on peut penser, là, la plupart des gens ont encore une petite vision, que ce soit de la perception lumineuse, des mouvements,
ouais.
Mais la plupart des gens vont voir quelque chose encore.
Puis vous, Stéphanie Michaud, vous êtes aussi une personne qui avait une perte de vision, donc vous utilisez vous-même la canne blanche?
Oui, j'utilise la canne blanche, mais pas dans tous mes déplacements. Ça va vraiment dépendre du contexte. Par exemple, quand je suis dans un environnement que je connais bien,
mm-hmm.
j'en ai pas besoin. Quand je vais dans un environnement que je connais pas, qui fait noir ou qu'il
ouais.
y a beaucoup de monde, une grosse foule, là, je vais l'utiliser pour avoir plus d'aide puis pour mieux que les gens fassent attention aussi au fait que je vois pas bien.
Mm-hmm.
Donc, plus facile de demander de l'aide et surtout, les gens sont plus à l'aise à nous offrir de l'aide et à nous aider.
Bien sûr. Puis, est-ce que vous trouvez que ça a évolué avec le temps? Est-ce que vous trouvez que la réaction que les gens avaient face à la canne blanche avant sont un peu plus sympathique ou plus instruite aujourd'hui?
C'est sûr que ça a beaucoup évolué. Il reste encore beaucoup de changements à faire. Souvent, le premier réflexe, les gens, ça va dire, oh, regarde, la personne ne voit rien, c'est un aveugle. Mm-hmm. Alors que justement, elle a peut-être une perception lumineuse, elle voit peut-être un petit peu. Donc, il reste de la sensibilisation à faire, à démontrer que la canne blanche, c'est un outil, mais ça ne veut pas dire que la personne est juste en cécité totale. Mm-hmm. C'est sûr qu'on veut, nous, INCA, faire beaucoup de sensibilisation auprès des élus aussi. Oui. Beaucoup cette année, c'est un peu notre mandat de comprendre mieux c'est quoi la réalité d'une personne aveugle aujourd'hui. Pour les traversées de rue, pour aller faire son magasinage. Mm-hmm. Donc, c'est quoi vraiment... se mettre plus dans la peau pour encore mieux comprendre et mieux sensibiliser les gens.
Oui, parce que, qu'on le veuille ou non, même s'il faut sensibiliser tous les citoyens et citoyennes, il reste qu'il faut aussi que les décideurs comprennent ce qu'il faut mettre en place pour que votre vie soit, disons, un peu plus agréable ou même
exactement.
Possible dans vos déplacements, dans vos choix. Pour que les gens, peut-être, comprennent bien, parce que c'est aussi un des autres buts de cette semaine, comment on aide une personne non-voyante, par exemple, dans le métro ou au coin d'une rue? Est-ce qu'on le fait?
C'est toujours apprécié de le faire. Mm-hmm. Faut-il savoir comment le faire? Donc, il ne faut juste pas oublier que la personne qui a une canne blanche, c'est une personne.
Oui.
Avant. OK, donc la personne qui se déplace, normalement, elle sait où est-ce qu'elle s'en va. Mm-hmm. Donc, pas prendre pour acquis qu'on va, nous, savoir où est-ce qu'elle s'en va puis qu'on va la traîner.
Bien sûr.
Ça m'est arrivé plusieurs fois de me faire tirer par le bras, de faire tirer par le manteau, faire tirer par la canne blanche, littéralement. Ça, c'est des choses à éviter.
Bien sûr.
Par contre, ce qui est à faire, c'est vraiment d'arriver à côté de la personne et de simplement lui offrir de l'aide.
Ouais.
Et si elle n'en a pas besoin... Bien, lui souhaiter une bonne journée puis de continuer son chemin.
Ah, exactement. Donc, il faut quand même jamais oublier, peu importe qui on croise dans la rue ou dans la vie, que la personne se possède, il faut s'adresser à elle avant d'utiliser ses moyens pour pallier au handicap, disons.
Exactement. C'est ça, pas oublier que c'est une personne
c'est
avant
ça.
Tout. Oui, c'est le plus important.
Parfois, le plus basique et le plus éloquent. Je pense que vous venez de le dire et de l'énoncer. Stéphanie Michaud, je rappelle que vous êtes chef du programme Vision Amitié d'INCA Québec. Vous avez une paire de visions, mais vous êtes aussi et surtout une excellente porte-parole. Si on veut plus d'informations sur INCA, on visite...
le www.inca.ca.
Puis on peut même ajouter la petite barre oblique FR. Merci beaucoup, Stéphanie Michaud, et bonne semaine de la canne blanche!
Merci, bonne journée à vous.
Au revoir.
Vous écoutez Accès libre avec Benoît Lassette.
cassette. Toujours la même cassette. Toujours la même cassette. Plus clair.
Question de la semaine. Pense-t-on assez à l'accessibilité universelle dans les communications? Quels obstacles rencontrez-vous dans les médias et sur Internet?
Et comme par hasard, la communication généralement vient avec un émetteur, un récepteur. Donc, si vous êtes toujours là, on vous invite bien sûr à interagir, à commenter sur cette question qui est importante parce qu'elle est assez oubliée, disons-le. Ça fait plusieurs années que les groupes le défendent, mais quand on pense à l'accessibilité universelle, on pense bien sûr à l'environnement bâti, l'architecture, comment il est possible de se déplacer. On pense aux personnes à mobilité réduite. Mais des tonnes de personnes, des centaines de milliers de personnes dans notre société pourraient avoir besoin de manière différente de les inviter à être informés, de manière différente de communication. Et quoi de mieux que d'inviter deux spécialistes, deux personnes bien renseignées pour comprendre le phénomène d'accès à l'information sous toutes ses formes. D'abord avec nous, Antoine Perrault, qui est coordonnateur du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Bonjour Antoine.
Bonjour Benoît.
Merci d'être là. Avec nous aussi Vincent François, qui est consultant en accessibilité web, qui travaille là, souvent très techniquement à faire que les sites comme celui que vous fréquentez en ce moment, canalm.vusezvoix.com, soient lisibles. Bonjour Vincent François.
Bonjour.
Merci d'être là. Je commencerai, si vous permettez, avec Antoine Perrault, puisque les personnes en situation de handicap ont toutes sortes de besoins. La communication en est un, évidemment, puis l'accès à l'information, c'en est un autre. Je vous ai déjà posé la question à peu près en 2016. Comment ça va, l'avancement de l'accès à l'information, notamment pour les personnes aveugles, globalement?
C'est dur à dire bien ou mal, mais je peux répondre qu'il y a des avancées, puis il y a des attentes aussi, il y a des reculés pour certaines choses.
Ah oui?
Globalement, ça avance dans plusieurs de nos dossiers. Faut savoir que les sites web gouvernementaux sont soumis à des standards.
Ah oui.
Le fameux SGQRI, donc les standards d'accessibilité du web du gouvernement du Québec. C'est sûr que nous, on fait beaucoup de représentations parce que ce n'est pas tous les sites web gouvernementaux qui les respectent malgré leur obligation. Donc, un de nos gros dossiers, c'est de faire la représentation auprès de certains ministères quand une plateforme web n'est pas accessible.
Par exemple, oui.
Un autre de nos gros dossiers, c'est la modernisation. Ces standards-là ont été adoptés en 2011. Ça fait 2011 dans l'univers du web, c'est il y a de très, 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 très nombreuses années.
Des années
de choses lumière. Ont été ont évolué. Et ça fait longtemps que le gouvernement est censé procéder à une modernisation. On a, ceci étant dit, des bonnes nouvelles à ce sujet-là. On a rencontré certains représentants qui nous ont présenté en fait ce qui allait être proposé. On a pu faire des commentaires. Et on a bien hâte de constater les résultats.
Ah oui.
Qui devraient être d'ici, ben, en fait, hiver 2018.
OK.
Donc, on attend ça en hiver 2018.
Donc, c'est quand même, j'oserais dire, la pointe des services. Parce qu'on ne parle pas seulement d'être informé via les médias ou même d'accéder à quelque chose qui serait, je ne dis pas que c'est moins important, mais qui serait plus associé aux loisirs ou, etc. On parle de l'information pourvue par le gouvernement, liée aux services parfois essentiels.
Oui.
Puis vous parliez d'ailleurs de la difficulté d'informer les personnes aveugles, les personnes qui présentent des difficultés à la lecture, de choses aussi simples que l'accès au vaccin de la grippe, par exemple.
Ben nous, c'est une de nos revendications a été, ça fait deux hivers, en fait, que la campagne de vaccination contre la grippe se tient et qu'on constate des problèmes majeurs au niveau d'accessibilité sur le site web du gouvernement. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est sûr que les cliniques se font en CIS puis en CIUS, souvent, mais c'est quand même le ministère qui met une plateforme web qui va référer chaque personne selon sa région administrative à l'endroit approprié.
Oui. Puis on s'attend à une hyper-fiabilité de cette information-là et même à une hyper-accessibilité.
Tout à fait, ce qui n'est pas nécessairement le cas. On a fait une première représentation pas cette année, la campagne d'avant. On a constaté cette année certaines améliorations, mais encore beaucoup de problématiques. Il a fallu qu'on réécrive. C'est un des exemples, il y en a plusieurs exemples comme ça qui montrent qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant d'atteindre vraiment un accès à l'information pour toutes et pour tous.
Vous parliez du gouvernement du Québec, évidemment, c'est votre interlocuteur privilégié. Rappelons que le RAC, le regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, regroupe des groupes de personnes aveugles partout au Québec, mais est-ce que ça va bien du côté fédéral? Est-ce que vous êtes en mesure de le jauger? Est-ce que vous avez fait aussi des représentations à cet égard?
On travaille aussi au niveau fédéral. Il faut comprendre qu'au fédéral, c'est un peu différent dans le sens où au fédéral, les standards qu'ils ont, ce n'est pas des standards qui sont provinciaux ou nationaux. Ils se fient sur les standards internationaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les WCAG 2.0, niveau double A là, pour les personnes qui s'y connaissent un peu.
Donc double A, en général, c'est l'ajout du vidéo LSQ.
Il y a plus d'ajouts que ça.
WCAG
2.0 se divise en A, double A, triple A. Généralement, les pays qui se fient à des standards, les provinces aussi, vont prendre le double A.
Donc, le triple A, c'est...
Très pointu.
Très pointu. OK. Entendons ça comme ça. Ou plus pointu, bien sûr. Donc, on est aussi avec Vincent François, qui est consultant en accessibilité web. Je vous interrogerai autant qu'Antoine Perrault. Vous comprenez bien qu'Antoine Perrault, Vincent, œuvre et spécialisé pour l'accessibilité chez les personnes aveugles. Mais de qui on parle exactement quand on parle d'accessibilité web, notamment? À qui on parle plutôt?
Ben, on parle aux quatre familles de personnes handicapées, de quatre familles de personnes qui ont des limitations fonctionnelles, mais ces limitations fonctionnelles ne sont pas égales face au fait de communiquer à travers un écran, souvent avec peu de son, ce qui fait que la grande majorité des règles sont liées au déficit visuel, que ce soit la cécité complète ou que ce soit des problèmes de contraste, des problèmes de reconnaissance des couleurs, des problèmes d'agrandissement des tailles de caractère. Donc effectivement, par nature, l'obstacle étant qu'on communique à travers un écran, ce sont surtout des règles liées au handicap visuel.
Et bon, on entend bien, puis je rappelle, cher Vincent François, que vous êtes chroniqueur à l'émission. D'ailleurs, on peut repérer sur canalm.vusevoix.com en allant dans la barre de recherche, en inscrivant Vincent François, toutes vos chroniques qui sont très détaillées sur des aspects de la mise en accessibilité d'un site web. Donc, je le dis comme ça, mais je vous pose la question, soit à Antoine, soit à vous maintenant. On sait que c'est important, le web. Est-ce qu'il y a d'autres aspects des communications sur lesquels il faudrait travailler aussi? Puis, pas seulement le gouvernement, là, ou l'information dispensée par le gouvernement via le web. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on doit s'occuper particulièrement?
C'est sûr que nous, un autre des gros dossiers qui touche encore le web, mais qui élargit uniquement l'information qui est transmise à travers une page web, c'est le commerce en ligne, qui est un très, très gros enjeu et qui va prendre de plus en plus de place. Le gouvernement du Québec a annoncé des plans assez ambitieux pour encourager
les... Il y a beaucoup d'argent? Est-ce qu'on peut dire ça comme
ça?
Oui.
Qui ont pour encourager les PME, les grosses entreprises à se diriger vers le commerce en ligne. Nous, le constat qu'on fait, c'est que si l'accessibilité n'est pas réfléchie dès la mise en place d'une plateforme de vente en ligne, ça va créer des problèmes plus tard parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être exclues de ce commerce-là. Et là, on peut se projeter dans l'avenir un peu, mais on imagine que plus les commerçants vont utiliser le web pour vendre, moins il va y avoir d'endroits physiques. Et là, ça va entraîner une chaîne de conséquences qui peuvent être très problématiques dans l'accès à des biens de consommation.
Mais selon votre lecture, pourtant, les personnes aveugles, les personnes en situation de handicap pourraient être de très bons candidats pour acheter en ligne.
Oui.
Donc, il y a certainement, j'oserais dire, là, je m'excuse, d'habitude, on parle de défense de droit, mais une part de marché significative. Là.
Oui, puis c'est sûr que nous, on est en train de réfléchir à des façons... en fait, on travaille sur un dépliant explicatif pour encourager les commerçants à se tourner vers le commerce de détail en ligne accessible.
Oui.
Puis c'est sûr que oui, il y a quand même un haut pourcentage de la population à aller chercher à travers ça, qui va être complètement exclu si le site web n'est pas accessible, si la plateforme de vente en ligne n'est pas accessible. Et c'est un gros problème.
Vincent François, vous voulez intervenir?
Oui, je rajouterais qu'effectivement, on a, avec les personnes handicapées devant un écran web, des gens qui ont parfois pas le choix de passer par l'écran plutôt que d'aller se déplacer, ou c'est plus facile pour elles de faire ça à travers l'écran. Donc, d'une certaine manière, une grande partie des services qui sont donnés en ligne, que ce soit pour de l'information, pour de l'achat, pour de la représentation, sont presque... on pourrait être considéré qu'ils sont d'abord faits pour des personnes handicapées qui ont des difficultés à se déplacer, à se confronter à tous les obstacles physiques pour faire ces échanges-là. Mais dans la réalité de notre histoire, ça a été l'inverse. C'est-à-dire qu'on a fait d'abord... ça, on a inventé ces produits pour les valides en général, et ensuite on s'est dit, parce qu'il y a eu des gens qui ont milité pour ça, on s'est dit, et qu'est-ce qu'on fait pour les personnes avec des limitations fonctionnelles? Est-ce qu'on peut adapter les choses pour elles?
Voilà.
En fait, ce sont... Moi j'ai souvent donné cet exemple dans mes formations. Acheter un journal, se déplacer, sortir la monnaie de sa poche, le lire avec ses yeux, etc. Il y a tout un tas de gens qui peuvent le faire et qui le font sur le web, mais ceux qui ont différentes limitations fonctionnelles qui empêcheraient de faire tous ces gestes-là vont bénéficier en premier de l'informatique en général et du web en particulier. Et puis deuxième chose, c'est que notre monde est en train de basculer essentiellement, que ce soit du militantisme politique, que ce soit la vente, que ce soit la façon de réseauter socialement entre nous, tout est en train de passer sur le numérique. Donc ça devient, c'est même pas un plus pour les gens, ça devient le cœur de nos relations entre humains et incluant tout le monde.
Bien sûr. Alors, écoutez, dans quelques instants, on se reparle après cet instant musical, parce que ce monde, en effet, bascule, espérons-le, vers l'accessibilité numérique.
Jeune libertine, un samedi soir, potion magique, un peu toxique, ménage à quatre, échec et mat, je suis dérangé et affamé. Sur la fontaine, assise en train du matin, prendre le métro par le profond, son téléphone à la main, partout.
derrière mon persona se cache un petit maladroit qui, malgré la haine qui danse dans ses veines, désire nul autre que toi. Et jamais tu ne le sauras. Oh non, jamais tu ne le sauras. Jamais tu ne le sauras.
C'est moi.
Question de la semaine. Pense-t-on assez à l'accessibilité universelle dans les communications? Quels obstacles rencontrez-vous dans les médias et sur Internet?
Et vous, y avez-vous déjà pensé à l'accessibilité quand vous fréquentez un site web? Est-ce que vous avez déjà imaginé que presque la moitié de la population présente des difficultés à la lecture, plein de gens n'ont pas le français comme première langue, ou encore que des gens qui ont une déficience visuelle ou qui ont une basse vision, ou même, par exemple, une déficience intellectuelle, ne voient pas, c'est le cas de le dire, le site web comme vous? Bien, on aimerait que vous répondiez. Vous pouvez le faire, n'oubliez le pas, en allant sur notre page web canalm.vusezvoix.com ou encore en allant sur Facebook. Hein, Facebook, c'est pas toujours très, très accessible pour les personnes aveugles, mais beaucoup, ils s'y retrouvent maintenant. Et on a avec nous Antoine Perrault, qui est coordonnateur du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, sans oublier Vincent François, à l'autre bout du fil, consultant en accessibilité web et aussi chroniqueur à l'émission pour un web toujours plus accessible. Alors, Vincent François, je reviendrai vers vous. Vous avez un peu lancé le mot à la toute fin du dernier segment. Le monde numérique, là, c'est pas juste une petite porte, là, c'est l'avenir. Tout, à peu près, risque de se retrouver là. Est-ce qu'on est prêt, autant comme gouvernement, est-ce que les entreprises sont prêtes à faire face à la multitude de personnes qui pourraient le fréquenter, ce monde numérique-là?
Il n'y a pas de réponse bien tranchée.
Oui.
J'ai apprécié apprendre qu'on approchait au gouvernement du Québec de la rénovation de notre standard EGQRI 008. Même s'il y a du retard, je suis content de savoir qu'il y a quelque chose qui bouge. J'avais cru comprendre que c'était endormi. Donc, est-ce qu'on est
Mais
prêt?
Vous, en fait, je vous prends au bon deux instants. Là.
Oui?
Vous considérez que le standard actuel sont un peu dépassés, que les standards actuels sont un peu dépassés?
Oui, mais c'est pas le vrai problème.
Ok.
Si on a un problème d'accessibilité, c'est pas parce que le standard du Québec est dépassé, c'est parce que on ne prend pas suffisamment la mesure de son application.
Ah.
Et le fait qu'il soit un peu dépassé, ce qui est vrai, ne devient un problème qu'au point de vue technique, parce qu'il ne permet pas de répondre à des questions qui n'existaient pas au moment où il a été rédigé.
Okay.
Donc c'est en ça que c'est une limite. Mais une fois que des gens de bonne foi se donnent les moyens de rendre quelque chose accessible, le fait qu'il y ait des défauts dans le standard ne peut... Ça peut alimenter la mauvaise foi éventuellement, mais ça ne peut pas vraiment poser un problème technique.
Mmh.
On se repère, tous les standards internationaux se repèrent au standard, justement, au standard international WCAG 2, et ce qui fait qu'on trouve une réponse dans WCAG 2 si on ne la trouve pas dans EGQRI. Donc le problème de savoir si on est prêt...
Donc juste pour que les gens comprennent, les deux standards que vous avez nommés,
oui.
Donc celui international, on l'entend souvent, c'est...
WCAG de Web Content Accessibility Guidelines, version 2.
Et au Québec, on a une autre appellation.
Et on a le SGQRI 008, qui vient en trois standards, 01, 02 et 03, suivant ce dont on parle. Et SGQRI, ça vient pour standard du gouvernement du Québec en matière de ressources informationnelles.
Mm-hmm.
Et 008, c'est probablement le numéro du ticket qui était disponible. c'est
pas moins magique.
Mais pour savoir si on est prêt, une société dans son ensemble, elle est prête sur les raisons réglementaires, donc on a des règlements, mais sur aussi les raisons commerciales. Est-ce que les entreprises comprennent l'intérêt qu'elles ont d'attaquer ces marchés-là et pour leur image de marque? C'est pas toujours bien clair. Les raisons, on va dire, juridiques, est-ce que il y a des avocats qui circulent avec des gros bâtons prêts à frapper les gens qui sont pas accessibles? De notre côté de la frontière, la réponse est plutôt non, même s'il y a eu un retentissant procès en 2011 au Canada. Du côté américain, c'est la réponse est oui, et il court vite et il tape fort. Et un des moteurs qui fait qu'aux États-Unis, il y a une prise en compte de l'accessibilité numérique beaucoup plus forte que dans le Canada et dans le Québec, est justement la peur de se faire
poursuivre. Vous trouvez que c'est quoi le modèle qui fonctionne le plus vite? Est-ce que le modèle américain où on a peur d'être poursuivi quand une entreprise, ça fonctionne mieux qu'un modèle de sensibilisation plus habituel au Québec, par exemple?
Si je mets mes ornières et que je m'assure, je ne regarde que la question de l'accessibilité numérique et du travail dans le domaine, oui, ça marche mieux aux États-Unis. Mais est-ce qu'on veut une société à l'américaine pour justifier ça? Je ne crois pas. Ce qui fait qu'ils ont leur réponse à leur façon de faire un peu agressive et très commerciale. Nous, on réagit mal, mais je préfère notre modèle à nous. C'est quand même plus constructif, nos façons de vivre entre nous au Québec qu'aux États-Unis.
Parce qu'en fait, dans la communication, le problème, est-ce que c'est qu'on a les moyens de l'appliquer ou qu'on ne croit pas que c'est nécessaire?
Bonne question. Moi, je sais qu'on a les moyens. J'entends souvent qu'on ne croit pas qu'on en a besoin ou qu'on reporte. Je crois aussi que la plupart des gens qui décident ne se rendent pas compte de la réalité de la situation des personnes handicapées. Et ça, c'est pas valable que pour la question d'accessibilité numérique, c'est valable dans tous les problèmes. Ça fait peur. Ça fait peur d'imaginer ce que ça peut être de vivre avec telle ou telle limitation. Donc, on ne veut pas le voir, donc on ne veut pas voir les solutions. Il y a de ça. Or, pour répondre à la sous-question des débuts, quand on se retrouve sur un petit téléphone portable, on a besoin d'accessibilité. Nos yeux ne permettent pas de voir toujours la petite taille de l'écran. On a besoin d'agrandir les caractères. Quand il y a du reflet de soleil sur l'écran, on est bien content qu'il y ait des contrastes qui aient été respectés. Quand quand on pilote son téléphone depuis sa voiture où nos yeux sont et notre attention est ailleurs que sur l'écran, on est bien content qu'il y ait des commandes vocales ou qu'on nous lise les textos ou des choses comme ça.
Oui, parce que la plupart du temps, est-ce que c'est ça aussi? La plupart du temps, une mesure qui est pensée, par exemple, pour une personne aveugle ou une personne qui présenterait des difficultés à la lecture, puis on s'entend que c'est pas du tout les mêmes réalités, là, mais que ça commande tous les deux des changements, j'allais pas dire des adaptations, mais des mises en accessibilité de sites web. Mais donc, ça advient quand il y a un grand nombre qui se rend compte de l'intérêt de ces applications, de ces particularités ou tout ça. Est-ce que je suis cynique quand je dis ça? Je pose la question à Antoine Perrault.
Oui.
Oui et non.
OK.
Oui, c'est sûr, mais... il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération là-dedans aussi. Pas uniquement ce facteur-là.
Ouais.
Fait que j'aurais de la misère à me prononcer.
Bon, c'est ça. Mais il faut dire que c'est un peu une question casse-gueule, je m'en excuse, là, parce que tout notre travail, à nous trois d'ailleurs, et même aux gens qui viennent le plus souvent à cette émission, c'est de rappeler l'importance de ne pas oublier des pans importants de notre population. Je rappelle quoi, les personnes aveugles ou qui présentent une basse vision dans notre société, c'est quoi? C'est autour de 4% à peu près?
Au Québec, on parle de 300 000 personnes.
300 000 personnes?
Au dernier chiffre qu'on a qui date un peu.
C'est quand même pas négligeable. Puis les personnes qui présentent une déficience intellectuelle, 1%, troubles du spectre de l'autisme, 1 à 2%, littératie, problème de littératie, la moitié du monde. En tout cas, je pense qu'on commence à parler de monde qui ont des besoins. En vous quittant tous les deux, Vincent François, Antoine Perrault, je vous poserai la question, c'est quoi la priorité là, qui devrait nous préoccuper en ce moment eu égard à l'accessibilité de l'information?
Il y en a beaucoup.
La
priorité, puis je reprends un peu ce que M. Vincent dit tantôt, les standards vont être mis à jour, c'est bien. Ceci étant dit, il y a un des nerfs de la guerre, c'est pas nécessairement la mise à jour des standards, c'est aussi s'assurer que les gouvernements appliquent les standards. C'est juste ça, même avec des standards qui sont un peu vieillots, ça serait déjà quelque chose de bien.
On dirait qu'on revient à la question d'une loi plus contraignante pour le gouvernement. C'est presque ça en arrière.
Il y a beaucoup de demandes d'avoir une loi qui a plus de mordant parce qu'effectivement, on constate actuellement que si le gouvernement, si un ministère ne respecte pas les standards, il va arriver quoi? Ah, c'est une bonne question. Ben, il faut qu'il fasse.
Voilà. Donc, on sait qu'il y a une loi fédérale qui est à venir. Au Québec, est-ce qu'il y aurait une voix avec plus de mordants? Je ne sais pas. Vincent François, comment vous réagissez à ça, vous?
Je dirais la même chose, mais pour rajouter et ne pas répéter, je dirais qu'il y a l'éducation aussi.
Oui.
Moi, je corrige, je mesure la qualité de site à la journée longue, et je suis atterré que ça fait moi une quinzaine d'années que je travaille là-dedans, de voir que le niveau des développeurs n'augmente pas.
Bien sûr.
Les gens ne comprennent ce qu'il faut faire qu'une fois qui se sont fait taper sur les doigts parce qu'on leur a dit que vous ne le faisiez pas bien. Mais il n'y a pas d'apprentissage dans les écoles. Les gens ne sentent pas la pression et le besoin de faire. Parce que l'accessibilité, c'est de la qualité.
Ben, c'est important. Il faut prendre le temps qu'il faut pour rendre accessible. Vincent François, consultant en accessibilité web, merci beaucoup.
Merci.
Antoine Perrault, coordonnateur du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec, merci.
Merci.
Alors, continuez la conversation sur canalm.vusezvoix.com. L'accessibilité web, c'est important. Puis tout le reste aussi.
Vous écoutez Accès libre.
Question de la semaine. Pense-t-on assez à l'accessibilité universelle dans les communications? Quels obstacles rencontrez-vous dans les médias et sur Internet?
À chaque émission, nous faisons découvrir un essai ou un récit à caractère historique qui est disponible en version audio grâce à Vusezvoix. Rappelons que si vous présentez une déficience visuelle ou encore si vous avez de la difficulté liée à l'apprentissage, vous pouvez profiter de ces versions adaptées. Je vous invite à entendre le quatrième de couverture du titre « Américaquasi », oui, « Américaquasi » de l'auteur Jean Désy, qui se décrit lui-même comme témoin, auteur, promeneur et acteur. Son essai est publié chez Mémoire d'Encrier, produit en version audio par Vusezvoix.
C'est au fil de mes pérégrinations dans tout le territoire de la péninsule Québec-Labrador, dans les villes le long du Saint-Laurent, au sud, mais surtout au nord, sur la côte nord, Nitassinan, à la baie James, Eyu-Iche, et dans le grand nord, Nunavik, que j'ai fini par mieux comprendre les extraordinaires qualités de la vie métisse. À n'en point douter, l'avenir harmonieux de ce pays passe par la métisserie. Amériquoisie rassemble des essais portant sur l'autochtonie, le nomadisme, le paysage et la nordicité. Témoins, auteurs, promeneurs et acteurs, Jean Désy court le territoire et nous parle de cette aventure dite « métisserie ». Né au Saguenay, Jean Désy est écrivain, médecin et voyageur. Il vogue entre le sud et le nord, entre les mondes de l'autochtonie et de la grande ville, alliant l'écriture, l'enseignement et la médecine à la poésie.
Amériquoisie de l'auteur Jean Désy, rendu disponible à la Bibliothèque et Archives nationales du Québec par le truchement de son service québécois du livre adapté SQLA. Entendez maintenant le premier chapitre.
Avant-propos. Dans ce court essai intitulé « Amériquoisie », se retrouvent les importantes notions d'autochtonie, de métissage et de métisserie. J'ai voulu y rassembler plusieurs textes portant sur des thèmes qui me sont chers. Le nomadisme, l'occupation entière du territoire, l'insertion dans le paysage, la nordicité. Mais le grand leitmotiv de cet essai, c'est le fait métisse. Le métissage physique, bien sûr, mais surtout la métisserie culturelle. Voici quelques définitions. L'Amériquoisie, c'est le pays rassemblant les gens des Premières Nations comme ceux qui vinrent en terre d'Amérique après Christophe Colomb. Le mot « Amériquoisie » est un clin d'œil évident au film « Québécoisie » de Mélanie Carrier et d'Olivier Higgins, dans lequel, entre autres, on s'interroge sur notre identité collective. Un film, « Paroles amériquoises », a été réalisé par le cinéaste Pierre Bastien, après une rencontre réunissant en 2011 une trentaine de poètes autochtones et non autochtones à Ekwanitschit et sur une île de la rivière Romaine, sur la côte nord. On peut imaginer que l'Amériquoisie pourrait représenter le territoire de tous les Québécois à travers l'Amérique du Nord. L'autochtonie, c'est la communauté des gens qui sont nés ou qui sont arrivés dans un pays, sur un territoire, dans un espace géographique, afin de l'habiter, mais surtout d'aimer y habiter. Je sais bien que ces années-ci, dans mon pays, l'autochtonie représente l'ensemble des communautés dites autochtones. Mais dès que je marche au Nunavik, dans le Grand Nord, dès que je canote au Eyu-Iche, dès que je ramasse des moules sur la côte nord, je me sens totalement autochtone. En ce sens, mon lien à l'autochtonie reste viscéral, émotif, entier. Le métissage, c'est l'union physique de deux personnes de groupes ethniques différents qui permet la venue au monde d'un être neuf, issu de deux univers, mais fraîchement ouvert à un univers plus large, plus libre, plus aéré. La métisserie, c'est le métissage, mais culturel, affectif, spirituel, idéal. C'est au fil de mes pérégrinations sur le territoire de la péninsule Québec-Labrador, dans les villes le long du Saint-Laurent, au sud, mais surtout au nord, sur la côte nord, Nitassinan, à la baie James, Eyu-Iche, et dans le Grand Nord, Nunavik, que j'ai fini par mieux comprendre les extraordinaires qualités de la vie métisse. À n'en point douter, l'avenir harmonieux de ce pays passe par la métisserie. Et qui sait, un groupe fortement dynamique et francophile créera-t-il un jour sa propre Amériquoisie?
Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'y rester et d'en sortir. Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'en sortir et d'y rester. Gilles, il est pas laid. Il a les cheveux mi-longs et il est plutôt jeune, ça se voit. Il aime pas les animaux, non. mais il est tapi chez lui comme un chat, avec des livres, avec le souvenir d'avoir été ivre, mais pas que de joie. Ses yeux vitreux posent leurs doigts sur cette vie qui est devenue une vitrine juste comme ça. Il sort encore, se mélange toujours aux autres, même s'il gueule, même s'il insulte, ne vous y trompez pas. Il sait toujours reconnaître le beau dans le langage, surtout quand il déplie et redéploie de façon neuve ce qui a toujours été là. C'est vrai qu'il se pose et qu'il pose beaucoup de questions, Gilles. Il trouve que tout est bien, tant que ça fait pas de nous des lopes, c'est déjà ça. Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'y rester et d'en sortir. Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'en sortir et d'y rester. Gilles, il s'en tape d'être beau. Il se dit le plus important, c'est de rester fidèle à soi et de surtout pas tout faire tourner autour de soi. Il aime comme un animal qui, dans un lieu qu'il ne connaîtrait pas, chercherait l'endroit où il se dirait « je suis chez moi » avec des livres, se souvenant avoir parlé dans une autre vie, le hollandais et s'être appelé Spinoza. Ses yeux s'agrippent aux petites choses, celles qui permettent de comprendre que c'était peut-être pas tout à fait comme ça. Mais il a su rester un mec simple, un parmi tous les autres, parce que tendre au fraternel, c'est à ce prix-là. Il le sait comme son pote Félix, comme son gars Michel, parce que pour lui, ce sont des types qui pensent droit. C'est vrai qu'il trouve cette époque naze, mais d'un autre côté, il se dit que ceux qui la vivent, ils s'en rendent pas vraiment compte, alors c'est peut-être pas si grave que ça. Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'y rester et d'en sortir. Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'en sortir et d'y rester. Gilles, il est élégant à sa manière. C'est pas une gravure de mode, non, c'est juste lui, quoi. Il l'aime comme une bête curieuse. C'est ce qui l'a poussé à acheter ce disque de rap, je crois. Avec des livres, parce qu'écrire, et les rappeurs écrivent, c'est se lancer dans une affaire universelle, dit-il à haute voix. Ses yeux restèrent figés sur la pochette du CD. Il se gratta la tête et se dit, pourquoi pas. Mais au fait, saviez-vous qu'il habitait non loin de la rue Nollet, la rue où Verlaine vivait plein d'absinthe et de vodka. Il s'apprêtait à écouter un disque de rap classique, au sens de consternant, égotripé, bourré de clichés victimaires de lieux communs et d'attitudes pseudo-gangsta, mais à ce moment-là de l'histoire, il ne le savait pas encore. C'est vrai qu'on a les poètes qu'on mérite, pensa-t-il. Mais après avoir écouté, quand la platine s'arrêta, il éclata en sanglots. Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'y rester et d'en sortir. Lorsqu'on fait quelque chose, il s'agit d'en sortir et d'y rester. C'est mon chir au Maroc qui un jour me l'a dit.
Question de la semaine. Pense-t-on assez à l'accessibilité universelle dans les communications? Quels obstacles rencontrez-vous dans les médias et sur Internet?
Évidemment, on cueille aujourd'hui les obstacles liés aux communications, mais il y a des gens qui savent surpasser les obstacles, et bien sûr, je parle de ces athlètes parasports, et qui de mieux qu'Émilie Bouchard-Labonté, rédactrice pour Sportcom, pour nous parler de ce qui s'en vient dans ce monde de parasports. Bonjour, Émilie.
Bonjour Benoît.
Très content de te reparler. C'est la première fois en cette année 2018.
Absolument. Donc, on est encore en janvier. On peut souhaiter bonne année.
Bonne année. Et c'est une année déterminante puisque bientôt, dans quelques jours, ce sera les Jeux paralympiques de Pyeongchang. Donc, c'est le 9 mars prochain, c'est bien ça?
Oui, donc dans 38 jours, 16 heures, 46 minutes et 53 secondes exactement, la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Pyeongchang commencera.
Et vous l'avez évidemment tous les jours devant le nez parce que vous avez certainement hâte. J'imagine d'ailleurs que vous savez déjà peut-être quels Québécois sont susceptibles de se qualifier pour les prochains Jeux paralympiques.
Absolument. C'est des prévisions, par contre, parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe officielle qui ont été annoncées.
Pas encore?
Mais je devrais avoir une pas pire moyenne.
Oui, oui. Ben, en fait, vous êtes la meilleure à qui on devrait parler pour ça. Puis moi, j'ai envie qu'on commence avec le para-hockey qui soulève souvent beaucoup de passion dans tous les domaines, autant au para qu'aux Olympiques. Alors, qui serait, d'après vous, le Québécois ou les Québécois pressentis pour le parasport, pour le para-hockey, pardon?
En fait, j'en choisirais deux. D'abord, oui. Dominique Larocque, gardien de but de l'équipe nationale de para-hockey présentement, mais qui était aux Jeux paralympiques à Sochi il y a 4 ans à titre d'attaquant, avec qui, en fait, avec l'équipe, il a remporté la médaille de bronze. Donc, ça serait une deuxième participation aux Jeux paralympiques pour lui. Et un petit ajout qui pourrait s'ajouter, Antoine Lehoux aussi, un attaquant qui pourrait se joindre à l'équipe. Dès qu'on a on suit ça avec attention là, pour le dévoilement de l'équipe officielle, mais ça serait deux bons candidats à l'équipe.
Puis on les sait sûrement d'attaque, mais j'ai envie de vous demander de mieux décrire peut-être ce qu'est le para-hockey pour les gens qui nous écoutent, qui n'ont peut-être pas encore croisé ce sport-là. Donc, comment on procède dans les grandes lignes, là, évidemment, j'ai pas envie que vous... Je ne veux pas que je joue à l'arbitre, là, mais qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus?
Bien, en fait, le para-hockey, c'est un nouveau terme qui est utilisé depuis la dernière année. On connaît mieux le sport sous le nom de hockey-luge. Mm-hmm. Alors, ça résume bien un peu, si on imagine un peu le sport, ça résume bien. Donc, évidemment, les athlètes en hockey-luge ne sont pas sur des patins, mais sont vraiment sur une luge sur laquelle la luge, il y a un petit patin. Ils avancent, les athlètes avancent avec deux bâtons de hockey pour se propulser et pouvoir faire des passes et marquer des buts. Donc, ça ressemble quand même beaucoup au hockey traditionnel, comme on le connaît, le hockey debout, mais sur une luge pour adapter le sport à nos athlètes paralympiques.
Ce qui est vraiment percutant, c'est que les bâtons servent à la fois pour se déplacer et servent aussi pour lancer la rondelle. Donc, il y a vraiment un usage extraordinaire des bâtons là, pour tous ceux qui aiment les jeux de mots et les commentateurs sportifs. Là.
Exactement. Bon. Donc, aussi, par contre, pour tenir un peu son équilibre, j'imagine, avancer, tenir l'équilibre, parce que sur un patin, en fait, sur une luge, c'est difficile d'être droit là-dessus. Donc, ça doit servir un peu à l'équilibre en plus de se propulser et faire des passes.
Voilà. Paraski alpin maintenant, quels sont vos préférés ou favoris, je dirais?
Bien, j'en ai deux encore une fois. Chez les filles, Frédéric Turgeon, qui connaît une très belle saison, une 4e place dernièrement. Ça n'a pas été facile pour les athlètes en ski para-alpin cette saison. Beaucoup d'annulations de compétitions. Donc, se sont rendus sur certains sites de compétition pour lesquels, à cause des conditions climatiques, ça n'a pas été possible de compétitionner. Mais Frédéric Turgeon, quand même, quelques 4e place à son actif cette année. Mmh. Il y a aussi Alexis Guimont, qui, lui, sa place est pas mal assurée, je crois, au sein de l'équipe canadienne pour les Jeux paralympiques. Médaillé de bronze cette année, d'ailleurs. Là. Alors, c'est deux athlètes participants en ski debout. Mm-hmm. Il y a aussi d'autres compétitions aussi en ski para-alpin qui va avoir les Jeux paralympiques, donc en ski assis et aussi en ski pour les athlètes ayant une limitation visuelle. Alors, au moins 3 catégories là, en ski para-alpin.
Bon. Et rappelons que Frédéric Turgeon et Alexis Guimont en seraient à leur premier jeu.
Exactement. Des petits niveaux au sein de l'équipe nationale. Ça fait quelques années, nous, qu'on les suit à Sportcom, mais ça serait absolument leur premier jeu paralympique. Alors, on pourrait avoir quand même de grands espoirs malgré le fait que c'est leur premier jeu, surtout pour Alexis. Quand même des médailles, quelques podiums en poche là, depuis les 2 dernières saisons. Alors, c'est sûr que ça serait un espoir de médaille pour le Canada à Pyeongchang cette année.
On les surveille donc. Qu'en est-il maintenant du ski paranordique?
On a un athlète à surveiller qui serait à ses 3e Jeux paralympiques, un athlète chez les Québécois à surveiller, Sébastien Fortier. Il était aux Jeux paralympiques à Vancouver, puis ensuite à Sochi. Son meilleur résultat individuel, c'est une 18e place qu'il a obtenue aux 15 km à Sochi. Donc, c'est peut-être pas un espoir de médaille de son côté, mais on peut compter sur son expérience à titre de vétéran de l'équipe. Donc, présentement, Sébastien, pour pouvoir... poursuivre l'entraînement, prendre des forces et tout. Il fait 2 sports cet hiver. Donc, en plus du ski paranordique, il fait aussi du parabiathlon. Okay. Alors, il est beaucoup sur ses skis et lui, il évolue en ski assis.
Donc, sur les skis, mais aussi au tir, c'est ça?
Oui, pour le parabiathlon, là, c'est une épreuve mixte de tir et de ski.
Bon, terminons maintenant avec, je pense, une autre surprise que vous aviez identifiée en ski paranordique, c'est bien ça?
Oui, ben en fait, je vais juste vous glisser un mot à propos de Cindy Ouellette, qu'on connaît, puisqu'elle était capitaine de l'équipe nationale de basketball en fauteuil roulant lors des 2 derniers Jeux paralympiques. Elle a fait 3 Jeux paralympiques d'été, donc Pékin, Londres et Rio, mais elle s'essaye pour les Jeux paralympiques d'hiver maintenant, elle aussi en paraski de fond ou en ski paranordique, comme on le dit. Sa place n'est pas assurée encore, elle manque les quotas par très peu de points, mais il y a une possibilité quand même que l'équipe obtienne une place de plus pour les Jeux paralympiques de Pyeongchang, et c'est elle à ce moment-là qui obtiendrait cette place-là. Donc, ça serait un très grand ajout à l'équipe canadienne, selon moi.
Bon, et en conclusion, puisque ça s'en vient très bientôt, là, quels sont vos pronostics pour le Canada, pour le Québec, en vue, évidemment, des prochains Jeux?
Des Jeux paralympiques?
Oui, oui.
Moi, je prévois quand même au moins trois médailles.
Oui.
Deux pour Alexis Guimond en paraski alpin, puis une en para-hockey aussi. Donc, trois médailles pour les athlètes québécois. Et aussi, bon, c'est sûr que au niveau canadien, l'équipe canadienne de curling en fauteuil roulant est championne paralympique en titre de Sochi.
Mm-hmm.
Alors, ça serait, si on a misé là, pour une médaille, bien sûr, le curling en fauteuil pourrait faire partie de notre liste.
Bien, ça tombe bien parce que c'est le cas aussi du côté olympique. Le curling, toujours à l'honneur un peu partout au Canada, surtout dans les maritimes, j'imagine. Est-ce que les athlètes sont surtout présents en maritime, en parasport aussi?
Je pense que c'est plus de l'Ouest canadien.
De l'Ouest?
Je me souviens bien. Ou bien c'est une équipe qui regroupe les meilleurs athlètes de partout au Québec, généralement en curling debout. Là, c'est une équipe, exemple, albertaine qui va défendre son titre contre l'équipe de la Colombie-Britannique. Mais en curling en fauteuil roulant, on s'est assuré d'avoir les meilleurs atouts pan-canadiens pour pouvoir former une équipe.
Alors, on compte sur vous, Émilie Bouchard-Labonté, pour surveiller tout ça. Rappelons que vous êtes rédactrice pour Sport.com et très avisée, vous le savez. Dans combien de secondes, les Paralympiques de Pyeongchang?
Donc, 38 jours, 16 heures, 39 minutes, 33 secondes.
Merci beaucoup, Émilie Bouchard-Labonté.
Merci à vous.
En France, on n'a pas la 61, mais on a plein de petits sentiers. Oh yeah. En France, on n'a pas de chef d'art, mais du Minster du Coulommiers. Oh yeah. En France, on n'a pas de rock'n'roll, mais une kyrielle de chansonniers. Oh yeah. En France, on a le subjonctif, et juste aimé que vous le sachiez. Oh yeah. En France, on n'a pas de cow-boys, mais des fermiers, des métayers. En France, on a la charolaise, les ports bretons et du lisier. Oh yeah. En France, on ne dit pas fuck you, on dit plutôt merde, fais chier. Oh yeah. En France, on aime beaucoup râler, c'est une façon de faire clignotier. Oh yeah. C'est yeah. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. C'est yeah. On est mangeur de grenouilles et ça c'est un truc d'initié. Oh yeah.
Oh yeah.
En France on ne dit pas oh yeah, mais brave gens. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah.
Oh yeah.
En France on n'a pas de pétrole, mais des idées sur le papier. Oh yeah.
Oh yeah.
En France on a le nucléaire et on ferait bien de s'en méfier. Oh yeah. C'est yeah.
Oh yeah.
Oh yeah.
Oh yeah.
Yeah.
Oh yeah.
Oh yeah. C'est yeah. Chaque habitant a son bar et chaque bar a son pilier. Oh yeah. En France, on a le code du travail et les semaines de congés payés. Oh yeah. En France, on a le soleil, la mer, la garrigue et les oliviers. Oh yeah. En France, on a les corons, la pluie, les terrils, des bassins houillés. Oh yeah. C'est yeah. Oh yeah. Yeah. Oh yeah. C'est yeah. Oh yeah, yeah, oh yeah, say yeah,
oh yeah,
oh yeah,
oh yeah,
yeah,
oh yeah.
Oh yeah, say yeah.
Oh yeah,
oh yeah, yeah. Say yeah.
Question de la semaine. Pense-t-on assez à l'accessibilité universelle dans les communications? Quels obstacles rencontrez-vous dans les médias et sur Internet?
Alors, continuez de répondre à la question. C'est important parce que souvent, c'est le parent pauvre, l'accessibilité de l'information. On érige des édifices universellement accessibles, on pense facilement aux personnes à mobilité réduite, mais les communications tous les jours, c'est ce qui fait qu'on a le plus de pouvoir, qu'on est capable de comprendre, de décoder le monde, et c'est important, évidemment, de s'assurer de la compréhension par tous et toutes. Il y a des commentaires, ou en fait, un commentaire qui est déjà entré de la part de Claudia Nigrelli. Elle nous écrit, et d'ailleurs faites de même sur canalem.vuesetvoix.com, elle nous écrit « Alors, depuis plusieurs années, j'utilise beaucoup les réseaux sociaux ainsi que des moteurs de recherche, comme Google, et je me rends compte que malgré les avancements de VoiceOver et de JAWS, donc pour ceux qui ne le savaient pas, ce sont deux systèmes de synthèse vocale, donc qui font la lecture de ce qui se présente à vous à l'écran. Donc, je reprends. Malgré les avancements de VoiceOver et JAWS, ces programmes ne lisent pas encore tout sur les sites web. Évidemment, les sites web ne sont pas toujours accessibles, c'est pour ça qu'ils ne sont pas toujours lus. Et les sites web ne sont pas encore tout à fait accessibles et certains boutons de sélection ne sont même pas atteignables avec VoiceOver ou JAWS. J'aimerais bien compléter toute tâche seule et ne pas avoir à dépendre de quelqu'un. En fait, c'est ça qu'il y a derrière, comprenez-vous? C'est que ce n'est pas à quelqu'un comme le conjoint ou une personne qui verrait, par exemple, à lire le courrier, le site Internet, le mot sur cellulaire. C'est bien sûr à la personne qui a sa vie en main qui doit le faire. Donc, on vous invite à ajouter vos commentaires. N'oubliez pas, vous pouvez le faire aussi sur les réseaux sociaux. Et je voulais vous remercier pour la très intéressante participation qu'il y avait eu à la question sur est-ce qu'il est possible de sortir de chez soi avec l'hiver, avec la neige. Vous avez été nombreux, nombreuses à écrire. On sent que ça vous choque. Bien, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, choquez-vous autant pour l'inaccessibilité des médias, ça sera le fun. Enfin, je vous invite à ça. Ajoutez-vous et surtout, faites part peut-être des bons coups. Hein, c'est le fun des fois de saluer ce qui va bien, pas seulement ce qui va mal. Donc, merci à vous tous et toutes qui avez pris part à la conversation. Je vous rappelle que tous les segments de l'émission sont disponibles quand vous allez sur canalm.vuesetvoix.com. Donc, si vous êtes en ce moment sur le câble, vous pouvez aller faire un petit tour du côté d'Internet pour retrouver tout ça. Donc, il y a l'information sur les intervenants qui viennent, les liens pertinents pour poursuivre la réflexion, pour continuer de bien vous informer. Je remercie toutes les personnes qui sont venues à l'émission. Et évidemment, j'oublie pas l'équipe, hein? C'est toujours elle que j'ai en tête, c'est pour ça le lapsus. Cette émission est impossible sans Anne-Laure Janson à la recherche, Christiane Campagna aux communications, Jean-Sébastien Laliberté à la mise en onde, et aussi qui est dans l'aquarium, là, c'est une espèce de pieuvre incroyable derrière un aquarium. C'est lui, Jean-Sébastien Laliberté. Benoît Racette, très content d'avoir fait cette émission-là avec vous. On se reparle la semaine prochaine, puisque, qu'on se le dise, on aimerait bien pouvoir lire et comprendre en accès libre.